RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis, à télécharger sur rmc.fr. Et dans les mardis qui viennent, vous allez vous précipiter sur rmc.fr pour télécharger Basket Time parce qu'on arrive dans les meilleures semaines, les semaines de play-off. Stephen Brun.
Oui, Pierre, bonjour.
Frédéric Beys, Alex Biggerstaff, bonjour.
Bonjour.
Pareil, bonjour. C'est pareil, quoi.
Pareil.
C'est pareil que Miguel.
Bonjour.
C'est bien cette période de basket.
Bonjour, Pierre.
Bonjour, Steve. Parce qu'il y a aussi les playoffs championnat de France d'Euroleague, pardon.
La saison régulière est enfin finie.
La saison régulière est terminée. Il va y avoir pas mal d'actu international aussi. Il y a des qualifs qui arrivent là.
Des fenêtres.
Ouais.
Encore un peu de semaines. On a le temps.
Ah oui, on a le temps. Encore des semaines qui arrivent là.
Il y a eu Neil Angloma qui a été drafté en 12e position.
C'est pas ça.
Il y a pas dans le quiz. Il y a pas les questions
sur la WNBA. Neil Angloma, non.
Très bien.
Qui est Neil Angloma?
C'est une joueuse française.
Mais rien à voir avec Jocelyn Angloma.
Non, je crois pas. Non.
J'ai cru que c'était ça l'info.
Non. Il y a 18 ans, qui était très forte avec Montpellier cette saison.
Alors. C'est un spécial bilan de la saison.
En fait, tu vois la différence quand il écoute et quand il dit ouais, ok.
Alors, non, il faut avancer un moment.
Il y a Valérien Haï qui a signé au Phoenix.
11 ans après.
11 ans après quoi?
Elle avait joué en WNBA, elle va jouer 11 ans après.
Parenthèse.
Alors, le bilan de la saison va se. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il faut
on
avancer.
On l'a pas passionné, gros.
Exactement. Non,
exactement. Alors, ça va se passer en deux temps.
Le mec revient. Ça va se passer.
Vos enchantements et vos déceptions de la saison, tout simplement.
T'as préparé des trucs, toi, vraiment?
Vite fait, mais c'est important. Je veux qu'on parle de ces deux thèmes-là.
D'accord.
Vite fait, mais il faut en parler.
Ok, d'accord, Pierre.
Voilà. Okay. Ouais. Surtout de mon enchantement.
Ton enchantement?
Je vous dis rien.
Oui.
Dans la partie historique, on a un très beau débat. France-Canada, quelle nation a le plus marqué l'histoire de la NBA? Puisque les années qui viennent vont peut-être être marquées par un duel Shea-Wemby. C'est probable quand même.
C'est possible.
Et puis le quiz, il n'y a pas de thème vraiment précis. Il y a des petites surprises sympas.
C'est un quiz freestyle.
Il y aura pas beaucoup de Canada quand même.
Il y a beaucoup de Canada dans le quiz et notamment
le sirop d'érable.
Dans le blind test. Oh, c'est parti pour Basket Time.
1 second left, Brown got it at the gun. Jaylen Brown caught him. Here's Scotty with force. Scotty finishing and flexing.
Go.
Yes, step back three. Bullseye.
Let's go.
10 in a row for Cooper. The youngest player in NBA history with 50 points in a game.
Oh, to Bridges.
Right to Kanepa. Yeah! Hornets have a keeper!
Alors, le bilan de la saison, et donc on va faire ça de cette manière. C'est une petite tradition de Basket Time qu'on aime beaucoup. Quels sont vos enchantements et vos déceptions? On démarre par vos enchantements. Voilà. Qu'est-ce qui vous a enchanté cette saison de NBA, Frédéric Weiss?
J'ai deux choses, une équipe et un joueur. Je commence par
tu commences par ce que tu veux.
Alors, j'ai envie de commencer par l'équipe.
L'équipe, ouais.
L'équipe, moi, c'est les Toronto Raptors.
Okay.
Ah ouais, toute l'année,
j'étais en boucle avec eux. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'ai trouvé bon. Je trouvais que c'était bien ce qui dégageait. Je trouvais que c'était intéressant, que le ballon circulait bien, que tu n'avais pas vraiment une tête qui dépasse. Tu vois, Brandon Ingram, RJ Barrett, tu savais pas. Quickly, bien sûr, mais Scotty Barnes, évidemment, qui est la tête d'affiche, en théorie. Mais je trouve que cette équipe, avec un Paul Toll à l'intérieur qui n'a pas tout le temps été là, eh ben ça joue bien.
Très peu été là.
T'as Mamou qui a été bon. Je trouve que cette équipe défend bien, cette équipe attaque bien, le ballon circule bien. Et il n'y a pas un joueur à 30 points, mais par contre, il y a plein de joueurs qui sont des menaces. Et il faut se rendre compte quand même que Radjakovic, c'est le premier coach européen à amener une équipe en play-off. Donc c'est quand même quelque chose de significatif. Alors il a une voix de merde quand il parle, c'est catastrophique. Grave, mais par contre, je trouve qu'il est
Garde
très très
aussi,
bon.
Je fais bien de la radio.
Non, non, toi t'as une très belle voix. T'es pas très beau, mais t'as une très belle voix.
Ça avait rien à voir dans l'histoire. Là,
si. Alors, bah oui, mais j'avais envie de te le dire. Et donc je continue sur les Raptors qui m'ont plu depuis l'année dernière et je suis assez satisfait que cette équipe fonctionne. En plus je comprends pas comment c'est passé parce que Atlanta qui à la fin fait pas jouer ses joueurs, Orlando qui a perdu contre Boston, je comprends pas exactement. En tous les cas
Atlanta choisit, je crois, jouer New York.
Oui, mais il faut une paire de coronets pour dire je choisis de jouer New York comme ça. Je respecte quand même parce que si ils se prennent 4-0, on s'en rappellera de celle-là quand même. Et tout ça pour dire que ça m'a plu depuis le début, le ballon circule. C'est une équipe plaisante à voir jouer. Je trouve que
il y a beaucoup de bons joueurs.
Il y a beaucoup de bons joueurs. Il n'y a pas d'excellents joueurs.
Brandon Ingram fait une très belle saison.
Fait une très belle saison, mais beaucoup hein, dans ce cas. Donc,
ce qui n'a pas été son habitude dans sa carrière.
Il n'a pas été trop blessé aussi.
Qui fait des hauts et des bas.
Ce qui était important. Donc Scottie Barnes, un des meilleurs défenseurs, franchement, de la NBA. Donc ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé.
RJ Barrett, puisque on parlera du Canada.
Voilà, c'est ça. RJ Barrett, bien sûr,
qui est solide.
Donc Toronto,
un Canadien qui joue au Canada. Je trouve ça cool.
Il y a Gradedic aussi.
C'est juste Gradedic est un peu défense. Sa saison rookie était pas mal.
Où est-ce que tu vois le plafond de cette équipe juste parce que
c'est là que ça tape les Cavs ou pas à premier tour?
Franchement, ils vont les embêter, mais les Cavs sont bons ou Toronto n'est pas bon. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ils vont les massacrer. Et là, je pense qu'il peut y avoir un problème. Honnêtement, c'est déjà un miracle pour moi, vu l'effectif, d'arriver à ce stade de la compétition. Moi, je pensais qu'ils passeraient par les play-in. Au début, ils ont très bien commencé, ce qui leur a permis de gérer un peu.
À un moment donné, j'ai voulu finir plus haut. Ils ont eu un petit trou.
Ils ont eu un trou parce que physiquement, t'as pas vu. Dès qu'ils sont un peu impactés, ils ont du mal. Et c'est là que je me dis que les Cavs.
Tu dis qu'ils vont se faire détruire à l'intérieur, mais est-ce que Poeltl peut pas, en ayant plus de minutes, en étant plus consistant, apporter quelque chose?
J'aime beaucoup Poeltl, mais
il a vraiment géré toute la saison. Il a très peu joué. Est-ce que c'est pas pour tenter un coup?
Ouais, j'ai du mal à y croire. Même si c'est un très bon joueur, je trouve qu'il est peut-être un peu sous-estimé, mais quand en face t'as Jarrett Allen et Mobley,
la maladie Crossfell, Jacob.
Très bien. Bravo. Donc ça, c'était l'enchantement numéro 1 de Fred. Quel est l'enchantement numéro 2?
Ben, moi, c'est Jalen Duren. Jalen Duren qui est All-Star.
T'aimes bien les grands, toi. Hein.
Ben oui. Ça paraît pas illogique. Mais c'est surtout un joueur qui est passé de 11,8 points à 19,5 points de moyenne. C'est-à-dire qu'il a progressé offensivement. On connaissait le buffle. On connaissait le joueur capable de prendre des rebonds, de poser des bons écrans, etc. Et on a trouvé une relation entre Kate Cunningham et lui. On a trouvé un joueur capable de jouer un peu de haut panier, avoir quelques moves. Alors, je suis pas en train de dire que c'est Hakeem Olajuwon, mais sauf que, offensivement, il a énormément progressé. Il prend beaucoup plus de shoots, alors qu'il ne joue que 2 minutes de plus. Donc, je trouve ça très impressionnant, l'évolution, l'énergie qu'il a eue, et récompensé à juste titre comme All-Star. Donc, voilà mon enchantement.
Et puis, quand Cunningham était pas là, il a assumé son statut
et
de
il a même
d'équipe,
et performé un petit peu plus encore.
Ouais, il a matchs à plus de 30 et tout.
Le meilleur pivot, j'allais dire américain. Est-ce qu'il y en a d'autres des meilleurs actuellement?
C'est dur à dire.
Il y en a un, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est Anthony Davis. Tu te rappelles? C'est un pivot qui joue.
Là, il a l'infirmerie pour un moment. Non, mais dans ceux qui jouent, c'est le meilleur.
Bam.
C'est lui qui. Oui, il y a Bam. Ouais,
ouais, mais ça se tape un peu avec Bam. Alors oui, il a mis 83 points, mais je pense que ça se tape un peu.
Les deux seront avec Tim USA, ouais. je pense à Los Angeles 2028.
Je pense aussi.
C'est bien ça pour nous.
Pourquoi?
Parce que c'est mieux qu'Anthony Davis, non? Pour nous, je parle.
Peut-être que Tony sera là aussi.
Oui,
ouais, c'est ça le problème.
C'est peut-être moins bon pour nous si elle est 3.
Non, mais parce que c'est des super joueurs, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est pas des joueurs hors normes.
Oui, mais Bam Adebayo, et on l'a vu à Paris 2024 avec Team USA. C'était pas la première option, mais il a fait des carnages sur les courts temps de jeu. Il a été ultra efficace.
Mais c'est un joueur ultra intelligent. Ouais, alors oui, peut-être un petit peu sous-dimensionné pour nous de ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est tellement intelligent, qui sait se placer. Il n'a pas ce post-rap pour rien quand même.
Il a mis 83 points.
Alors, c'est le bilan de la saison, donc on démarre sur ce qui vous a plu. Quels sont les enchantements de Stephen Brun?
Écoute, moi aussi j'ai une équipe et un joueur. Je commence par quoi, Pierre?
Je commence par ce que tu veux.
Les Celtics. On est obligé de revenir sur la saison de Boston qui fait deuxième à l'Est avec 56 victoires. Alors, c'est 5 matchs gagnés en moins par rapport à la saison dernière avec le même offensive rating, sachant qu'ils ont joué 66 matchs sans Jason Tatum.
Après, quand tu joues avec la deuxième, quand il manque la deuxième option, c'est pas très grave. T'as toujours la première.
Donc, on va pas rebondir là-dessus. Hein.
Non, on va pas rebondir. Surtout que je pense qu'avec Tatum, ils vont faire très très mal en playoff.
Une excellente deuxième option.
On se rappelle quand même que l'année dernière, ils sont éliminés par les Knicks au deuxième tour des playoffs où Tatum se blesse à la fin du match 4 alors qu'il était à 42 sur le parquet du Madison Square Garden et qu'il a été abandonné par Jalen Brown qui est pénalisé par les fautes et qui joue que 30 minutes à peine.
C'est vrai.
Qu'il l'a laissé sur le côté. Non, mais tout ça pour. Au-delà du parallèle Boston et Joe Mazzulla aussi, parce que Joe Mazzulla, ce qu'il a réussi à faire avec cette équipe en l'absence de Tatum, pour moi, c'est remarquable.
C'est le coach de l'année.
Écoute, il y a beaucoup de débats sur le coach de l'année. On en parlera
qui,
peut-être. Jimmy Bickerstaff, peut-être des Détroits. Et Mitch
Johnson, moi,
des Spurs. Mais
après, Joe Mazzulla, le problème qu'il a, c'est quand même qu'il a défoncé le coach de l'année en disant ça sert à rien. C'est
pour ça qu'il le mérite encore plus.
Mais moi, je le kiffe de ouf. Exactement. Moi, je le kiffe de ouf, mais je suis pas sûr que ça plaise.
On a vu Jalen Brown prendre les rênes de cette équipe, ce qui va lui valoir, j'espère, une place dans le meilleur 5 de la saison. Mais la capacité de Joe Mazzulla à avoir inventé des joueurs. Alors, Derek White, il ne l'a pas inventé, mais qui est à mon sens Derek White, peut-être un joueur sous-coté en NBA parce qu'il ne met pas énormément de points. Il a 1,3 blocs à 1m93. C'est le, derrière D-White, c'est celui qui est l'arrière qui a fait le plus de blocs sur une saison. C'est monumental la capacité défensive de Derek White. Mais Peyton Pritchard, on a eu la confirmation que starter ou pas starter, c'est un énorme joueur de basket, peut-être sous-dimensionné physiquement, mais avec un cœur énorme. Et il a inventé des joueurs. Nimi Asquita, le pivot portugais qui avait fait 4 premières saisons avec 9 minutes de moyenne à 4.4 rebonds, qui est aujourd'hui pivot titulaire d'une équipe qui est deuxième à l'Est. Et ben ça, c'est à mettre au crédit de Joe Mazzulia. Sam Hauser, qui a le physique de Scritch, qui n'est pas drafté.
Il est mort, Scritch.
Oui, oui. qui débarque avec un two-way contract et qui est aujourd'hui un joueur à part entière de la rotation qui a 40% à 3 points, qui a fait des pointes à plus de 30 pions. Baylor Sherman, ça c'est made in Joe Mazzulia, Baylor Sherman.
T'as vu son shoot? Même son shoot est chelou.
Oui, même son shoot est chelou, au-delà de son nom. Mais ça aussi, c'est un joueur inventé par Joe Mazzulia.
C'est le Charminator.
Ouais, 30e choix de la draft il y a 2 ans. Quand il y a des blessés et qu'on fait appel à lui, il est performant. Ils ont tapé Orlando dans un match qui était ultra important pour le Magic avec Sherman qui fait ce record en carrière.
Et Garza qui met le shoot de gagne.
Et on peut rajouter Luca Garza, Jordan Walsh ou même Ron Harper Jr. qui fait ce record en carrière sur le dernier match. Donc c'est une équipe qui joue à contre-courant parce que c'est l'équipe qui joue le moins de possessions par match en NBA, le 30e pace de la ligue. C'est une équipe qui est deuxième défense, quatrième attaque, qui, mis à part Jaylen Brown et Derek White, eh ben, ont pas non plus des joueurs exceptionnels.
Qui imposent son style aux
exactement,
autres.
Exactement, voilà, ça veut dire que Joe Mazzulia, le système mis en place par Joe Mazzulia, est très intelligent. Le trade qu'ils ont fait, parce qu'Anthony Simmons, qui était un joueur correct, mais qui n'était pas indispensable avec tous les joueurs qu'ils ont sur les postes extérieurs, ils l'ont tradé pour faire venir Nikola Vucevic.
Alors, Vucevic qui pour l'instant n'a pas pu apporter grand chose.
Il est revenu sur la fin de saison.
Il va être important au bon moment.
Et quand il sort du banc, donc voilà, c'est la meilleure équipe à l'Est pour moi.
Parce qu'au départ, il a commencé par starter et puis rapidement, Nimi Asquita a repris sa place.
Et est resté. Et pour moi, Boston, sur les 20 dernières rencontres de la saison, pour moi, c'est la meilleure équipe.
Ils peuvent être champions ou pas, franchement?
Ils peuvent l'être.
Ouais, vraiment.
Champion à l'Est, oui.
Mais champion NBA.
Ils peuvent l'être.
Ouais.
Ils peuvent l'être. Et Jason Tatum, et c'est toujours surprenant, alors il a pris plus de temps parce que Kobe avait mis 6 ou 7 mois pour revenir de sa rupture au tournoi d'Achille. D'ailleurs, après, il s'était fait le genou. Lui, il a mis 10 mois pour revenir. Mais le comeback de Jason Tatum, après 10 mois sans jouer, je ne sais pas s'il va taper un mur à un moment donné. Mais putain,
il a rien perdu. T'as l'impression qu'il a rien perdu.
Exactement. T'as l'impression que c'est le même après une très grosse blessure.
Normalement, ouais.
Rapidement sur le joueur.
Alors le joueur.
Moi, ouais, c'est Nickel Alexander Walker. Comme quoi, un cousin peut en cacher un autre. Le cousin de Shai Gilgeous-Alexander. Quelle saison il fait. Il arrive à Atlanta. Il arrive cet été avec un joli contrat. Il se retrouve à être titulaire parce que Trae Young, ben, il joue que 10 matchs et puis après il est tradé. Le carnage qu'il a fait. Le carnage qu'il fait lui, Dyson Daniels et CJ McCollum sur les postes arrière.
Même McCollum, c'est une bonne addition alors que c'était un joueur un peu en perdition.
C'est un joueur fiable. Et Nickel Alexander Walker, au-delà de sa capacité, avec Minnesota, c'était un joueur de rotation. Il était là, il mettait 2-3 banderilles de temps en temps, il allait s'asseoir.
Sous-exploité.
Il est à 20 pions de moyenne, Nickel Alexander Walker. Et on devait parler des trophées, mais on ne le fera pas. Et
tu peux l'évoquer comme ça.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a un duel, Jalen Duren, Nickel Alexander Walker, pour celui qui va être la meilleure progression de l'année.
Donc, c'est MIP, c'est ce sera. Soit ouais. Alexander Walker, ouais. Soit
Jalen Duren. Les deux sont dans le débat.
Les deux sont dans le débat.
Meilleur coach, Joe Mazzulia ou Mitch Johnson.
Ou J.B. Bickerstaff.
Ou le cousin d'Alex.
Exactement.
Okay.
Voilà.
Très bien. La famille.
Très bien. Je voulais ajouter quelque chose, mais ça m'échappe.
C'est pas grave.
Ah si, c'était pour le quiz. J'ai trouvé un autre nom composé avec Alexander qui reviendra dans le quiz.
Trent Alexander-Arnold, Liverpool, le Real Madrid.
Bingo.
C'était ça.
Si vous voulez bosser, vous avez quelques minutes. Et je vois le visage de Fred s'assombrir.
Non, j'en ai rien à foutre.
Alex, tes enchantements.
Eh ben, moi, je vais parler de la meilleure surprise de la saison, la plus grosse surprise de la saison. Et je parle pas des San Antonio Spurs. Bien joué, Pierrot. Bien sûr que c'est Charlotte, attendons. Faut quand même revenir sur Charlotte parce que par rapport aux bookmakers en début de saison, ils étaient planifiés ou en tout cas on les percevait comme l'une des plus mauvaises équipes de la NBA. Ils étaient annoncés quatrième pire bilan de la ligue. Ils frôlent les 20 victoires d'écart avec leur projection plus 19,5. C'est mieux que les Spurs qui sont à 18,5. Donc ils ont totalement retourné la table après avoir démarré surtout avec un début de saison catastrophique. 16 victoires en seulement 44 matchs. Et depuis le 15 décembre, il n'y a que les Spurs, le Thunder, les Celtics les Pistons et les Cavaliers qui font mieux que dans toute la ligue.
C'est des bonnes équipes, quoi.
Ils ont
ce que tu veux nous dire.
Bah, ils sont presque à 30-10 en fait sur cette période-là. 30 victoires.
Et le coach, c'est Charles Lee. Charles Lee. Il peut pas être dans la discussion, lui.
Parce que il faut que tu sois dans les meilleures équipes quand même. Il faut que tu sois dans l'eau. Là, tu pars de très très loin, mais c'est déjà un gros pas en avant. T'es pas en train de jouer les playoffs puisqu'ils sont qualifiés pour les play-in, Charlotte. Mais ça, c'est un truc de dingue parce que ça faisait 10 ans qu'ils n'étaient pas allés sur justement des playoffs. La dernière fois, ils avaient été sortis au premier tour par Miami. Là, le petit coup de destin.
La dernière fois, c'était avec Nico Batum, je crois.
Ouais, c'est 2015-2016, ouais, c'est ça, exactement. Et là, ils vont jouer les play-in ce soir justement face à Miami. Et dans le profil des équipes qui sont dans ce play-in, je pense que Charlotte, c'est un petit poil à gratter. Ouais. C'est un petit poil à gratter qui peut faire embêter.
Passe à autre chose un peu.
Normalement, ça peut le faire. En tout cas, Charlotte va jouer à domicile.
C'est ce qu'il y avait voulu déjà et ça n'a pas vraiment marché.
Et j'aime bien cette équipe parce qu'elle est super fun à voir jouer. C'est des jeunes joueurs qui ont compris qu'il fallait défendre pour exister.
Il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe quand même.
Alors, LaMelo Ball, c'est une transformation parce qu'on avait beaucoup de doutes par rapport à ces gars-là et notamment lui qui faisait un peu n'importe quoi. Ses minutes ont été régulées un peu à la manière d'un Wemby parce qu'il est à 28 minutes en moyenne seulement. Et surtout, ça a permis aux autres de prendre un peu plus de place. Il y a un rookie extraordinaire qui est Con Knuppel qui a fait une saison de dingue. C'est les deux meilleurs shooters à 3 points de la NBA cette saison, Knuppel et la Melo Ball. Il y a bien sûr.
Ils ont mis 540 tirs à 3 points à 2, c'est con.
Mais c'est là que ça m'inquiète pour les playoffs.
Brandon Miller, Miles Bridges,
t'es pas moins 3 points.
Et notre Moussa Diabaté national qui a fait une super saison aussi. Qui
et Ryan Kalkbrenner.
Et surtout, ça donne aussi dans une NBA où on est à la chasse. Pour le tanking, cette saison, on n'a jamais vu ça à ce point-là. Charlotte est la définition même de on peut attendre un petit peu, on peut être un peu patient. Et eux, ils ont reconstruit par la draft sur plusieurs années. Et là, ils sont en train de monter, qu'ils sont sur la bonne voie. Rick Carlisle, le coach des Pacers, a dit que cette équipe-là était peut-être celle qui avait la plus belle marge de progression à venir dans les 2-3 prochaines années NBA.
Et ils ont fait un très bon move en faisant venir Kobe White
de Chicago.
Qui met des puntos à sortie de banque.
Comme d'habitude, une bonne décision de Chicago, ça.
Oui.
À la place de Colin Sexton.
Chicago, c'est vraiment dramatique.
Hein. Ils ont viré tout le monde.
Je trouvais que l'an dernier, en fait, il y avait déjà des bons joueurs, mais que des croquettes. C'est-à-dire qu'ils se comportaient très mal. Miles Bridges, Brandon Miller et LaMelo Ball.
Bah, Miller était blessé aussi beaucoup.
Chacun voulait briller. Et puis tout d'un coup, alors je sais pas si c'est l'addition de Knuppel qui explique.
C'est l'impression que j'ai. Alors,
Tout d'un coup, ça s'est mis à cliquer et à jouer ensemble. Donc des bons joueurs
qu'ils ont mis des bastos à des gros cette saison sur le mois de janvier-février.
Qu'est-ce qu'on dit de LaMelo Ball qui est quand même parfois qui prend des shoots, des fois t'as quand même envie de le gifler.
Moi j'ai envie de le féliciter quand même.
Mais qui est très efficace cette
année. Envie de le féliciter. Alors je sais pas si c'est la maturité ou pas et qu'à un moment donné peut-être qu'il s'est dit bah c'est sympa d'être un joueur NBA 2K, ça fait rire deux secondes, mais à un moment donné j'ai quand même envie d'être un joueur sérieux dans une équipe qui gagne des matchs. Je trouve qu'il est plus près du texte. Tu vas pas l'empêcher d'être la Melo Ball. Alors bien sûr que parfois il y a 47 dribbles entre les jambes et 54 dans le dos et prendre un tir à 3 points.
Des shoots à 2 mètres de la ligne alors que tu as autre chose à faire.
Avec des célébrations de footballeur. Mais ça fait partie du personnage. Mais je trouve que il a nettoyé un petit peu son jeu, arrêté de jeter des ballons n'importe où et de prendre des tirs n'importe comment. Donc moi j'ai envie de lui dire bravo. On va encourager un élève qui était dissipé.
Moi je suis soulagé. C'est pas le cirque total auquel on pouvait craindre et finalement c'est un joueur qui est en train de trouver un peu d'équilibre. Ça fait du bien.
Est-ce que t'as un autre enchantement Harry Potter. Enchantement dans Harry Potter, c'est une matière importante.
Il ne connaît pas parce qu'il déteste Harry Potter.
Le seul Potter qu'il connaisse, il joue à Indiana.
Ouais, l'autre enchantement.
Mika Potter.
L'autre enchantement, c'est la classe rookie de cette année. Mm-hmm. Parce qu'on n'a fait que parler de la prochaine qui arrive tout au long de la saison. Et d'ailleurs, la course au tanking montre qu'elle est très cotée. Mais justement, celle de 2025, elle était énigmatique.
Ouais, mais il y a un cru exceptionnel.
Il y a un cru très prometteur. Prometteur. Déjà, dans le haut du panier, Con Knuppel, je pense que pour moi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais pour moi, il est rookie de l'année, malgré ce qu'a fait Cooper Flagg. Voilà, Con Knuppel, extraordinaire. T'as l'impression qu'il a déjà 8 années vétéran dans la ligue. Il y a des très bons garçons. Cooper Flagg sera un talent générationnel, je pense, s'il arrive à éviter les blessures. Dylan Harper, Vijay Edgecombe,
Maxime Reno,
mais aussi d'autres joueurs un peu plus prometteurs qui ont fait des saisons un peu moins solides. Mais Jeremy Pierce, Derek Quinn, je trouve que c'est un super tandem à New Orleans. Cedric Coward est très intéressant avec Memphis. Ouais. Colin Murray-Ball, on parlait des Toronto Raptors, je trouve qu'il a été extraordinaire.
Il l'empêche jouer pivot alors qu'il fait 2 mètres.
Exactement, et qui peut shooter à 3 points, qui est super aussi. Trey Johnson à Washington, bref, il y a franchement...
Le petit Nembhard de Dallas qui a fait 23 oui. passes.
Ryan Nembhard, la dernière journée, ouais. Canadien aussi.
Canadien, ouais.
C'est pas possible.
Les frères Nembhard.
Et Carter Bryant, ça sent enfin, même suivant les rôles qu'ils ont tous eu, cette classe-là, elle est très profonde et on s'attendait pas à ça, à la base.
Eh bien, écoute, ça tombe bien. Puisque mon enchantement, je pense quand même, il faut en dire un mot. Moi, j'ai été fasciné par Cooper Flagg, que j'ai adoré. J'adore le mec. Je trouve que c'est un très très beau joueur de basket dans une équipe bon qui a fait une saison inintéressante au possible, vraiment inintéressante. C'est rien passé, on n'a rien espéré.
Le fade.
On ne sait pas où ils vont. Et j'espère qu'ils vont pouvoir construire un truc sympa autour de Cooper Flagg parce que c'est moi j'adore. C'est le basket, c'est facile pour lui. Voilà, il sait tout faire. Il fait des choses très différentes. Parfois, c'est la vision du jeu. Parfois, il va mettre un gros tomard sur la tronche de ses adversaires.
Garçon intelligent.
Il sait défendre. Il est très intelligent. Je trouve très fluide. Tout est facile. Moi, j'ai adoré.
C'est très bien ce que tu parles de Cooper Flagg parce que ça, il vient de parler de Colin Knuppel et il y a
alors qui est le rookie de l'année du coup.
Rookie de l'année et moi j'ai du mal à me départager parce qu'en fait c'est deux garçons qui avaient des attentes différentes. Quand Cooper Flagg arrive dans la ligue, il a le statut de next LeBron James. J'ai 18 ans. Je dois dominer la NBA. On lui a donné les clés de la boutique à 18 ans dans une équipe qui est partie en vrille complet et je trouve qu'il a assumé ce statut de superstar. On va pas rappeler ses perfs, il y a quand même un match
mais
à 51.
Grâce à lui, on a regardé un peu Dallas quand
alors,
même. Hein.
Alors que Colin Knuppel, c'est pour moi la belle surprise. Il était peut-être pas attendu à ce niveau-là et il fait une saison remarquable aussi dans une équipe qui est un peu meilleure que celle de Dallas, même si Dallas à la base était censé être une bonne équipe et finalement c'est parti en vrille. Donc je sais pas c'est quoi le plus dur, c'est d'arriver dans une équipe à Charlotte où il y a déjà des bons joueurs autour de toi et tu t'exprimes et t'es bon ou assumer le statut de bah, c'est toi la future star de la ligue.
Sauf que je te rejoins.
Donc pour toi, c'est Knuppel.
Ouais, c'est Knuppel parce que effectivement, c'est plus facile normalement de s'intégrer à une bonne équipe. Sauf que Charlotte, c'était pas une bonne équipe en fait.
Oui, il jouait à l'envers.
Il jouait complètement à l'envers. Et je pense qu'il a permis aussi que cette équipe joue mieux au basket.
Parce que quand Charlotte joue mal début de saison, lui, il joue déjà plutôt bien.
Ouais, c'est ça. Et en fait, lui, il a fait le taf à s'intégrer dans cette équipe. Et les performances de Cooper Flagg, pour moi, sont un peu plus faciles à faire sur la fin de saison où tu peux lui filer le ballon un petit peu plus parce que t'as rien à jouer et que t'as envie qu'il soit rookie de l'année. Si on posait la question maintenant, je te dirais d'un côté t'as le rookie de l'année, c'est Colin Knuppel, et celui qui a le plus grosse
un futur MVP.
Le futur joueur star, le joueur vedette, etc., c'est Cooper Flagg. Ils ont pas du tout le même plafond, mais à l'instant T, si je devais choisir un
alors.
Pardon ?
Rookie de l'année, exactement.
Bah, franchement, on ne doit pas être loin de ça, mais je mettrais une petite geste pour Colin Knuppel.
Défensivement, Cooper Flagg est bien au-dessus de
évidemment, mais même, il a plus d'options offensives. Oui. Réellement, c'est un meilleur joueur de basket. Sauf que celui qui a apporté le plus à son équipe, pour moi, c'est Colin Knuppel.
Il est un peu plus fragile.
Être à ce niveau-là, à 19 ans, ce n'est pas juste hallucinant. Enfin, ça ne suffit pas pour être rookie de l'année, quand même.
Après, la hype, elle est du côté de Cooper Flagg.
Oui, évidemment, parce qu'en plus, il finit en trombe, etc. Mais je me pose toujours la question.
C'est déjà un patron de franchise. Mais c'est incroyable l'accomplissement qu'il fait en un an, sachant qu'il avait une attente colossale sur les épaules, qu'il joue avec des pimpins.
Sauf qu'en début de saison.
Les 1 sur 2 ne sont pas concernés.
En début de saison, tu penses que laquelle des deux équipes va faire une meilleure saison ?
Les Mavs.
Bah, et finalement, tu arrives dans une équipe et l'équipe se transforme.
Non,
alors,
ce n'était
pas le seul.
Mais historique, hein, mais il n'y a pas de souci. Après, il y a aussi un délit de sale gueule sur Knuppel parce qu'il ne ressemble à rien. Et que je pense que ça joue.
Ils étaient roommates, les deux, à Duke, Cooper Flagg et Colin
Knuppel. C'est complètement fou ce soir, quand même.
Mais je trouve que l'autre, en fait, il est tellement au-dessus.
Je te dis, il y en a un qui est meilleur joueur de basket, mais il y en a un qui a fait changer sa franchise pour moi un peu.
Après, vivement l'année prochaine que Kyrie Irving revienne et que Dallas soit une équipe un peu plus.
C'est pour espérer qu'il fasse quelque chose, oui, ouais. Dallas, quand même, que ce mec-là ne jette pas dans une équipe de merde trop longtemps. Alex, qui est ton rookie de l'année ?
Ah, c'est Colin Knuppel pour moi.
Pour quelle raison ?
Parce que j'ai un peu ce qu'a dit Fred, je ne peux pas rajouter grand-chose, mais Charlotte vraiment jouait très très mal en début de saison, avant que Charles Lee vraiment ne prenne les commandes. Et lui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il sort de fac, il arrive et c'est peut-être le mec le plus stable de tout ton effectif. Il connaît rien, il a pas foulé le pied sur un parquet et il a eu un sang-froid dingue. Il a shooté merveilleusement bien tout au long de la saison, et surtout on l'a réduit à cette dimension de shooter au début, avant de se rendre compte à partir de janvier que en fait le mec il pouvait faire jouer les autres aussi. Parce que quand LaMelo Ball a été un petit peu blessé en début d'année, il a fait quelques moves de playmaker et surtout. Il a défendu comme les autres. Il a montré qu'il était présent au rebond. Enfin, et tout ça dans une attitude, voilà, que tu avais l'impression que c'était une recrue du marché, quoi. C'est un vétéran qui a débarqué dans leur équipe.
Parfait. Voilà ce qui vous a plu. On passe à vos désillusions. Alors, Frédéric, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cette saison de NBA ?
Alors, Frédéric n'a pas aimé deux équipes, principalement. Oui. Alors, plein d'équipes, hein, réellement, mais il y en a deux que j'ai choisi de mettre en avant, ou en retrait, je ne sais pas d'ailleurs. J'ai choisi Orlando.
Ah.
Parce que j'en ai marre.
C'était aussi ma désillusion, je te laisse en parler, t'en parleras mieux que moi.
Non, mais je n'en peux plus de cette équipe, j'y croyais, je pensais qu'il ferait top 4 à l'Est, en plus à l'Est il y a eu quand même des équipes qui ont été en difficulté, je ne comprends pas ce que fait Jamal Mosley, je pense qu'il faut qu'il lui dégage, je déteste Paolo Banchero qui fait n'importe quoi, qui est un très bon joueur mais qui joue que pour sa gueule et qui est insupportable à voir jouer. Je déteste cette façon de jouer, je comprends pas la gestion. Quand tu vois les noms, t'as Desmond Bane, t'as Anthony Black, t'as Suggs, t'as Franz Wagner. Alors oui, ils ont été blessés, on va me dire. Sauf qu'il y a d'autres équipes
qui ont été blessés. Oui. Mais par rapport à l'an dernier, ils ont été épargnés. Hein.
Bah, un petit peu plus. Mais on s'attend toujours à quelque chose parce que sur le papier, ils ont une belle équipe, parce que ça joue bien, parce qu'ils sont jeunes, parce que tu dis ça va bien défendre. Finalement, ils n'ont pas très bien défendu cette année. Offensivement, ça a été catastrophique. J'ai détesté voir jouer Orlando cette année alors que c'est plutôt une équipe que j'aime bien au départ. Et il faut casser le duo Banchero-Wagner. C'est fini. C'est fini. Je trouve qu'ils se marchent sur les plates-bandes. Il n'y a pas d'intérêt à les voir jouer ensemble. J'ai envie de voir Banchero ailleurs parce que je pense qu'il a un potentiel. Et j'ai envie surtout que Franz Wagner prenne les clés du camion à Orlando.
Comme il l'avait fait l'an dernier.
En bonne santé surtout.
Mais je suis en bonne santé, bien sûr. Mais le choix de jouer à Munich, là, ou je sais pas où, en Allemagne, je trouve que c'était le pire choix qu'il ait pu faire, en fait.
Mais frère, mets-toi à sa place, tu viens jouer à Paris, t'es à Orlando, tu reviens jouer chez toi, t'as envie d'être...
Alors, je sais qu'il n'y a pas de risque. Là, il y a eu un risque et ça a handicapé quand même son équipe aussi. Donc je pense que c'est un choix un peu égoïste qu'il a fait, et pas pour son équipe. Donc Franz Wagner est un joueur fantastique, je pense qu'il peut aider son équipe à progresser, et envoyer Banchero et ramener quelque chose d'autre. Voilà.
Ramener
un big man aussi.
Oh oui,
junior, c'est gentil, c'est sympa.
Il y a Goga Bitadze quand même.
Demande le changement, viens quand dans le deuxième quart-temps, jouer.
Mais je suis d'accord, en backup, ça peut être hyper intéressant.
Je vais enchérir, puisque c'était aussi ma déception. Je trouve que l'an dernier, le potentiel, il avait l'air fou. La saison de Franz Wagner a été délicieuse. Et ils avaient eu plein de blessés. Malgré tout, ils s'en étaient bien sortis. Il y a zéro progression.
Avec le recrutement que tu fais.
Moi, avec Desmond Bane, qui est quand même un sacré joueur. Et alors, je vais rejoindre.
J'ai eu du mal à te mettre dans le bain.
Je vais dire une horreur qui va encore choquer. Mais moi, Paolo Banchero, je peux pas, j'y arrive pas. Je n'aime pas ce mec. Alors, il est jamais trop tard pour changer. Puisque je suis devenu Giannisophile après avoir vomi le jeu du grec, après avoir été vraiment Giannisophobe, donc tout peut changer. Donc je veux bien entendre, je veux bien lui laisser une deuxième chance, mais moi c'est vraiment
pas. Qu'est-ce que t'aimes pas dans son jeu ?
C'est bourrin, je sais pas.
Ah ouais.
Il y en a tellement des mecs qui m'intéressent plus, et notamment dans son équipe, Wagner, bon, qu'on a plus.
Moi c'est dans ses sélections, c'est dans ses sélections. C'est-à-dire que de temps en temps, il doit prendre un shoot mal, il va pénétrer quand il y a 14 personnes dans la peinture, enfin j'ai l'impression qu'il est toujours à contre-courant. Alors oui, il est fort physiquement, oui, il peut bien finir, mais parfois il fait des matchs catastrophiques alors qu'il est censé jouer près du cercle quand même.
Moi je pense qu'il peut progresser là-dessus. Aaron Gordon, avant d'arriver à Denver, c'était un citron.
Tu penses qu'il peut progresser à Orlando, vois, c'est ça la question.
Tu vois,
je te l'ai dit.
C'est pas la comparaison qui va me faire aimer Paolo Banchero.
C'est pas un joueur que je déteste, c'est son attitude à Orlando que je déteste. Et je ne vois pas comment il pourrait progresser.
Moi, j'ai peur qu'on soit face à un joueur, comme il y en a quelques-uns en NBA, qui a des vraies capacités, mais qui n'est pas un champion. Qui n'est pas... je ne sais pas, j'attends toujours...
Il a un passeport italien, mec. Ça fait 3 ans, il n'a pas fait la Coupe du Monde.
Je sais pas, dis-moi, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis, Steve ?
Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis ? Banchero. Mais je pense que tu as des a priori déjà dès le départ et que tu n'as jamais vraiment aimé ce joueur alors que...
Je sais pas, l'an dernier c'était intéressant. Fort, hein.
Mais l'an dernier tu ne l'aimais pas non plus.
Bah, un peu plus. Et là ça m'a saoulé.
Alors il peut regagner ton cœur.
C'est pour ça que ce n'est pas définitif.
D'accord.
Moi c'est définitif à Orlando.
Mais va falloir qu'il ait la même trajectoire que Giannis Antetokounmpo, ce qui n'est pas donné à tout le monde quand même. Non mais tu vois ce que je veux dire.
La barre est haute.
La barre est très haute quand même.
Après, enchaînons. C'est deux mecs qui sont sous contrat avec des énormes montants, je crois.
Stephen, qu'est-ce qui ne t'a pas plu cette saison ?
C'est la saison NBA dans sa globalité, en fait, parce que cette saison, moi, j'ai l'impression qu'elle a duré une éternité.
T'as pas aimé la fin de saison de Washington et des Nets?
Non, mais j'ai l'impression qu'elle a duré une éternité. Alors, bon, finalement, c'était exactement elle n'était pas plus longue que les précédentes. Et je remercie d'ailleurs Victor et les Spurs pour m'avoir intéressé et tenir mon assiduité à suivre la NBA, parce que sinon, je pense que j'aurais lâché. Entre les équipes qui sont nulles, et il y en a eu un paquet cette saison, trop même d'ailleurs. Alors, on me dit, oui, mais c'est parce qu'il y a une belle cuvée de la draft. Je n'ai rien à cirer, mec. Moi, je trouve ça honteux qu'il y ait des équipes et pas qu'une qui arrivent sur un parquet en ne voulant pas gagner, en faisant exprès de perdre. Parce qu'on a vu des équipes.
Record historique, 55 défaites. Il y a 8 équipes qui ont fait 55 défaites. C'est
faire exprès de perdre. J'ai des équipes qui ont fait exprès de perdre. Il y a des coachs qui ont pris des décisions pour ne pas gagner des matchs alors qu'ils étaient en position de gagner des matchs. Je trouve ça dramatique. Et Adam Silver, je pense qu'il a un vrai problème qu'il va devoir régler rapidement parce que des bonnes cuvées de rookies.
Mais il a trouvé une solution déjà pour que ça aille mieux. Il va rajouter deux franchises.
Ça va être largement mieux. La gueule de deux franchises qui vont arriver aussi. Parce que des bonnes QV de rookie, il va y en avoir sur les 10-15 prochaines années. Donc des équipes qui vont vouloir sacrifier pour avoir un bon rookie. Donc il faut faire payer ces équipes-là. Il faut que ces équipes-là payent des amendes très chères. Ensuite, les blessures et le load management secret des équipes sur les plus grandes stars. Ça m'a gavé aussi parce qu'on a eu des infos sur des podcasts américains comme quoi. Oui, ce n'est jamais les joueurs qui décident de ne pas jouer. Ce sont toujours le management, le staff qui disent que non, toi tu joues pas, alors que les joueurs eux veulent jouer. Et ça me gave aussi. Et j'en ai eu marre, et aussi surtout sur la fin de saison, de me réveiller des matins et de voir des garçons dont je ne connais, c'est pas le nom, alors, et encore moins le
prénom.
Quelle
a été la pire équipe pour vous cette saison? C'est les Nets quand même, non?
Brooklyn, ouais. Brooklyn,
tu les mets en Euroleague, j'ai très peur pour eux.
Parce que tu as des équipes, bon, Washington, la fin de saison, elle est incroyable.
Memphis
aussi, mais avec des joueurs qui jouent au basket un peu. Alors que les Nets, j'ai l'impression qu'ils sont tous nuls, quoi. Qu'il n'y a pas de bons joueurs dans cette équipe, à part
Michael Porter Jr. Il n'y a aucun joueur espoir.
Michael Porter Jr. Oui, mais enfin, il n'est pas au niveau de ce qu'on a vu.
Si tu me dis que tu n'aimes pas Paolo Banchero et que tu me dis que tu aimes bien Michael Porter Jr.
Non, je parlais du niveau. Je trouve qu'ils sont tous nuls, les Nets, les joueurs. Et qui est bon dans cette équipe, je sais pas.
Non mais franchement, à Utah, à Washington,
Ben Saraf,
Danny Wolf,
Utah, Washington, Sacramento, ils ont tous au moins un joueur sur lequel tu te dis bon, il peut peut-être un peu retourner à table. À Brooklyn, c'est le désert. T'as personne.
Et même à Utah, les jeunes qui ont joué quand même.
Il y a du potentiel.
Il y a deux trois trucs.
Bailey, tout ça.
Correct. Qu'il n'y a pas honnête.
Mais et autre chose qui m'a énervé, c'est que sur la fin de saison, je me suis réveillé avec des mecs, je ne sais pas l'identité, qui est 25 points, 35
ça,
points,
ça m'arrive
40
aussi.
Points. J'ai dit, attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça me fait mal au cœur.
C'est Chicago là sur la dernière journée.
Oui.
Incroyable.
Oui, ça sort de nulle part. Alors la NBA est censée être la plus belle ligue, la ligue la plus forte au monde, et je me réveille avec des clampins qui ont mis 30 points, donc ça m'a fait mal, et surtout, et ça m'embête de le prendre comme exemple parce que c'est un Français, mais ce gamin Adam Abal qui a été coupé de Strasbourg au mois d'août parce qu'il pouvait pas jouer en Betclic Elite, il a mis 20 pions en NBA avec Memphis. Alors je suis content pour lui, je suis content pour Ousmane Dieng qui a fait 36, 9 et 10, je suis content pour Ryan Rupert, mais est-ce que ces garçons-là, l'année prochaine, vont être à 25 minutes de moyenne dans une franchise NBA? Non. Et pour ça, je trouve que ça ternit l'image de l'NBA, la plus belle ligue, la ligue la plus compétitive au monde, et ça m'a gavé.
Si, pour répondre à la question d'Alex, si on met les Nets en Euroleague, il se passe quoi cette saison?
Les Nets de cette saison,
je sais pas, mais je pense qu'ils perdent des matchs.
Ils perdent pas mal de matchs.
Il y a toujours le principe qu'il y a la règle et tout ça.
Est-ce qu'ils vont au Final Four?
Bon, jamais d'avis. Et pour terminer sur cette saison NBA, la chasse au record aussi perpétuelle. Alors, on va pas revenir sur Bam Adebayo et les 5 minutes un petit peu ridicules. Il y a un truc, et ça fait 3 ans que ça dure. C'est Mikal Bridges. Mikal Bridges, bravo mec, tu joues tous les matchs. Ça fait 8 ou 9 saisons où tu joues tous les matchs. T'es à 653 matchs de suite, non-stop, sans être blessé. Ça fait 3 saisons. Il y a 3 ans avec Brooklyn, le dernier match de la saison régulière, il a joué 6 secondes pour rester dans son truc. L'année dernière avec New York, il a joué 14 secondes. Là, dans la nuit de dimanche à lundi, 23. Il est rentré 23 secondes, faute.
C'est correct.
Mais quel est l'intérêt? Parce que.
Mais ça va de mieux en mieux quand même, il joue un peu plus à chaque fois.
Oui, il joue un peu plus. Mais quel est l'intérêt? Parce que ce n'est pas une performance sportive, c'est pas un record sportif. Tu n'auras jamais la première place parce que AC Green, il a fait 1155 matchs de suite, donc il t'en faut 500 encore. Quel est l'intérêt? Qui va t'en vouloir parce que t'as joué que 81 matchs? C'est quoi ça? C'est de la merde. C'est de la merde.
Je suis d'accord. Non, c'est des records qui n'ont aucune utilité là.
Ok.
C'est même pas un record comme il a dit en plus.
C'est même pas un record.
T'as fait le tour là.
Oui,
t'as dit tout ce qui te, tout ce que t'avais sur le cœur.
Voilà. Est-ce qu'il y a pas plus de blessures cette année, enfin dans la NBA d'aujourd'hui qu'à l'époque d'AC Green, qui fait que c'est peut-être un petit peu plus reluisant de le voir enchaîner.
Alors attendez, juste, c'est bien, dernière chose, dans non, les 10 équipes,
mais s'il avait joué 81 matchs,
j'essaie de trouver un petit
truc. Tu n'aurais pas dit, bah, c'est une pipe, Michael Bridges, il est toujours blessé, non?
Dans les 10 équipes qui n'auront rien cette saison, qui ne font pas les play-in,
il faut les virer de la ligue.
Laquelle ou lesquelles vous semble la plus à même d'avoir un rebond spectaculaire l'an prochain? Washington, vous y croyez?
Non, bah, moi pas du tout.
Parce que Trae Young, il y a des sacrés
problèmes. Oui, mais
en Trae Young et Anthony Davis, si l'année prochaine, il ne gagne pas 25 matchs en plus, il faut arrêter.
Ouais, bah, il faut qu'ils jouent les deux là, hein, les deux plus là.
Non, mais parce qu'il y a d'autres joueurs quand même. Il y a Alex Starr, il y a.
Il y a Koulibaly,
il y a Riley.
Il y a Will Riley.
Le Canadien.
George, là.
Bob Carrington.
Bob Carrington. Non, mais c'est, il y a quand même que moyen Jones. D'avoir une équipe qui ressemble à quelque
sur
chose.
Sur le papier, oui.
Ouais, je demande à voir.
Ok, très bien.
Sur le papier.
Enfin, tu sais Indiana aussi quand même.
Il y a une Indiana, oui.
Parce qu'on parle de Sacramento. Mais Sacramento, quand tu le regardes au début de la saison, mec, ils ont une équipe de ouf. Hein. Mmh. Parce qu'ils ont Zach Lavine, DeMar DeRozan, Domantas Sabonis, Nick Clifford. Ils ont des... Ils font ça, ils font cette merde.
Mais Utah aussi a un petit potentiel quand même.
Non mais sérieux, Sacramento, ils ont fait ça.
Non mais Utah, ça va aller mieux Utah.
Non mais Fred, Sacramento, merde.
S'il n'y avait pas eu tout ça, Maxime Renaud.
Mais moi je suis ravi pour Maxime Renaud.
Oui, mais c'est bien pour lui. Mais attendez, tu penses que Zach Lavine et DeMar DeRozan, ils ont passé une bonne année?
Ils vont aider Sabonis, vous pensez ou pas?
Ils ont cherché, ils ont déjà testé le terrain en janvier.
Parce que Sabonis, c'est...
Sabonis, il faut que ça fasse Valanciunas avant qu'il soit backup.
Ça va être ça, après, non.
Mais évidemment.
Un mec incapable de faire gagner, qui fait des stats.
Exactement. Voilà.
Il finira aux Zagiris Kaunas avec Sylvain Francisco. Ils feront des alley-oops tous les deux.
Bon, alors, est-ce qu'on a fait le tour, là? On a tout dit? Non, il y a Alex encore.
La déception d'Alex.
Ouais, une franchise en particulier, quand même. Parce que pour moi, elle est gérée comme les pieds et pas depuis hier.
Chicago Bulls.
Alors, j'aurais pu choisir les Chicago Bulls, et c'est vrai, elle est gérée comme les pieds.
Moi, j'avais choisi la franchise.
Mais ça y est, ils ont commencé, ils ont appuyé sur le bouton, là, parce qu'ils ont viré quand même une partie du board. Donc,
ouais, ils ont gardé le coach, Billy Donovan, c'est magnifique.
Voilà.
Je comprends rien, mais.
Bon, alors, à l'inverse, il y a Milwaukee. Milwaukee qui a viré son coach du coup sur la dernière journée et qui fait vraiment de la merde depuis 2 ans. Je suis désolé de le dire, mais du front office aux joueurs, c'est exceptionnellement mauvais.
Ah ouais,
Doc Rivers a retourné déjà cette saison. Alors déjà, Doc Rivers, il le nomme quand? Il le nomme en janvier 2024. Quand Adrian Griffin, leur coach qu'ils avaient nommé juste avant, démarre la saison par 30 victoires pour 13 défaites seulement. C'est un super début cette saison, Kiro. 30 victoires pour 13 défaites. Mm-hmm. C'est ton équipe, Milwaukee, est au niveau, c'est un contender. Ils le virent parce qu'il y a Doc Rivers, ils se disent c'est une super idée. Le vieux, il a encore toutes les recettes.
Mais
de
Ubuntu Boston. Mais il y a que chez nous qu'il a une image de coach en bois, Doc Rivers.
Non, mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'il va rentrer au Hall of Fame cet été. Donc voilà, oui. c'est le timing. Non, mais le timing est très sympathique. Oui. Donc Doc Rivers, il le nomme en janvier 2024. Et derrière, ça ne va être que... Une accumulation vraiment de mauvaises décisions de la part de Milwaukee. Donc le vestiaire là en janvier va se retourner contre Doc Rivers parce que en fait la saison s'effondre. Giannis est un petit peu blessé, mais quand il est pas blessé, t'es quand même à 15 victoires, 15 défaites. Donc en fait ça change rien. Le joueur a envie de se barrer. Tu te reconstruis très timidement avec des joueurs moyens autour. Ça court à la catastrophe. Doc Rivers décide de piquer à vif son vestiaire avec ses méthodes à l'ancienne. Qu'est-ce qui se passe? Tout le vestiaire se retourne contre lui. Mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. Donc la fin de saison est complètement larguée. T'as un mec qui a dit à The Athletic, un des joueurs du vestiaire, à partir du moment où il nous a dit ça, on l'a enfoncé dans le mur et on lui a dit nous la saison elle s'arrête là, merci, au revoir. Le fiasco aussi, il faut rappeler Damian Lillard sur qui ils avaient beaucoup misé, qui n'a jamais marché avec Giannis Antetokounmpo. Et surtout, là il y a une question qui va se poser en octobre, le 1er octobre. Milwaukee a la possibilité de mettre sur la table une proposition de prolongation de contrat à Giannis Antetokounmpo de 4 ans, je crois pour 275 millions de dollars et tout. Sauf que est-ce que tu vas la poser, la prolongation?
Non.
Est-ce que tu vas la proposer?
Non.
Ou est-ce que tu vas trouver une solution de sortie cet été? Et est-ce que lui-même a envie de rester?
Moi, je pense déjà, ils ont fait une erreur avant la fin de la trade deadline. Il fallait le transférer.
Il fallait le transférer, on est d'accord. Il fallait le transférer. Donc, c'est une énième erreur, en fait. Et d'ailleurs, des franchises sont très fâchées contre Milwaukee par rapport à janvier-février, parce qu'il y avait des franchises qui étaient intéressées, qui avaient fait des offres. New York, Houston, Golden State avaient appelé également pour récupérer Giannis. Et en fait, ils se sont tous rendus compte que c'était pour les balader. On testait juste le marché du côté de Milwaukee pour voir si ça mordait ou pas. Donc, tout ça. Tu vas arriver cet été à devoir gérer ça avec des offres, sans doute. Je ne pense pas qu'elles sont forcément meilleures que ce qu'ils ont reçu en janvier-février, avec un joueur qui a sans doute envie de se barrer. Et surtout, et derrière Giannis, l'arbre qui cache la forêt, elle est...
Après, il y a Thanasis.
Il y a Kyle Kuzma.
La forêt, elle est sombre, hein, Pierrot.
Attends, il y a un truc qui m'intrigue.
Fred ne l'aime pas, moi je pense que c'est un bon petit joueur. Ray Rollins, je pense que c'est un bon joueur.
C'est la seule éclaircie dans la zone.
Non, Kevin Porter Jr. aussi, quand même.
Rollins, c'est le titulaire, ils vont pas
se faire partir. Je suis d'accord, mais sur le papier, c'était pas fou. Mais
Ray Rollins, c'est le seul éclair, franchement.
Mais attends, il y a un truc qui m'étonne. Bon, Houston, je comprends. New York, je comprends. Mais qu'est-ce que Golden State a pu proposer pour récupérer Giannis?
Steve Kerr. Ils ont proposé un coach.
Franchement, il n'y a plus rien à Golden State. Il n'y a plus rien.
Peut-être le contrat de Jimmy Butler, Podziemski.
Il y avait
Jonathan Kuminga qui était un asset important avant qu'il soit tradé.
Quand tu veux avoir Giannis et que tu récupères Porzingis, alors c'est fini pareil, mais c'est pas ouf.
Et puis dans les conneries des Bucks, il y a un garçon qui était censé être une énorme recrue et qui fait une très petite saison, c'est Miles Turner.
C'est catastrophique.
Miles Turner, il est pivot titulaire d'Indiana qui est final NBA l'année dernière. Il arrive à Milwaukee, tu dis qu'il avait besoin d'habit. Flop, hein, Miles Turner.
Oui, comment ça se fait ça? Comment t'expliques ça?
Indiana, ils ont fait les poches de Milwaukee sur ce trade.
Parce que ça jouait
bien
au basket.
Qui est allé à Indiana en échange?
Indiana
Il était libre.
D'accord. Mais après, il était bon à Indiana, Miles
Turner. Alors, objectivement, il était bon dans le contexte d'Indiana où ça joue bien, où le ballon circule bien, etc. Il ne peut pas créer son shoot. Il a du mal à faire beaucoup de choses.
Ils ont mis une sacoche sur lui. Pour justement l'envoyer de le faire partir.
Allez, on passe à la partie historique.
Oh, what a shot from Parker! Tony Parker putting on a show once again.
Because Tony Parker's here. As you know, he was named MVP of the NBA Finals at a tender young age of 25.
Nash taking Duncan off the dribble. Stoudemire! Oh, what a pass from Nash!
Steve Nash, 2005-2006 NBA Most Valuable Player.
Donc Wemby et Shea ont dominé la saison. Quelle nation, c'est la question de ce débat historique, a le plus marqué l'histoire de la NBA, le Canada ou la France? Alors je connais à peu près votre avis, chacun, mais c'est Fred qui va démarrer.
Le Canada.
Ouais.
Le Canada, parce qu'au Canada, je trouve qu'il y a plus une culture de basketteurs et des joueurs qui se sont imposés dans leur franchise. Alors pas forcément toujours des superstars, mais tu vois, moi le premier qui me vient en tête, c'est Rick Fox.
Ouais.
Rick Fox, trois fois champion, joueur qu'on connaît, reconnu, et donc qui a marqué les esprits. Et le deuxième qui vient en tête, Steve Nash. Steve Nash, c'est quand même deux fois MVP. Et si je dois continuer comme ça, je pense à Shea, je pense à Jamal Murray. Il y a plein de noms qui viennent en tête qui me semblent être plus forts que l'ensemble des joueurs français. Alors, tu peux comparer Nash, Tony Parker, tu peux comparer Rudy avec je sais pas qui, enfin tu vois,
Jamal Magloire
avec Jamal Murray par exemple, tu vois.
Jamal Magloire, il a dit.
Non mais tu vois ce que je veux dire.
All-Star.
Tu peux comparer
Jamal Magloire,
ouais, une fois All-Star. Ouais.
Mais dans l'absolu, le talent cumulé et l'importance qu'ils ont dans leur franchise, est plus important du côté du Canada que du côté des Français. Et je pense qu'il y a plus de titres surtout aussi du côté des Canadiens, en globalité.
19-10. 19 titres pour le Canadien, 10 pour les Français. Je rejoins un peu Fred. C'est vrai que, alors si on se base sur la NBA actuelle, chacun a sa superstar. Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama. Et après, si tu redescends en gamme, j'ai l'impression que les Canadiens ont plus de joueurs importants dans la ligue, de bons joueurs dans les franchises que nous. Nous, il y a Rudy Gobert derrière Victor Wembanyama. Et après, tu es sur des garçons qui, eux, ils ont un paquet de mecs qui peuvent être starters. On a parlé d'Alexander Walker, Jamal Murray, qui est quand même la deuxième option de
Andrew Nembhard,
Dylan Brooks,
Lou Dort, Bénédicte Mathurin, Shedon Sharp, qu'on oublie, qui est canadien mais qui joue à Portland et qui a loupé beaucoup de matchs, Andrew Wiggins, qui est quand même un joueur. Donc tu vois ce middle,
la densité de
haut niveau. Après, des joueurs NBA, on en a plein.
Nolan Traoré, Moussa Diabaté,
il y a 60 joueurs français qui ont foulé un parc NBA, il y en a 72, donc il n'y a pas un énorme écart du côté, ils sont à plus 12 du Canada, alors que peut-être que leur proximité géographique fait qu'ils ont plus d'opportunités pour aller. Nous, on a quand même fourni beaucoup de joueurs NBA, mais des joueurs NBA qui ont été importants dans des effectifs, qui ont fait des très belles saisons, qui ont été starters, je pense qu'ils sont en avance sur nous.
Bien sûr.
Alex,
je suis totalement d'accord avec les gars. Il y a franchement beaucoup de mal à voir les Français rivaliser là-dessus, tant les Canadiens envoient en fait de joueurs en NBA. Et même, tu le vois au niveau de l'échelon universitaire, il y a énormément de Canadiens qui jouent au basket là-bas. Et l'homogénéité du niveau des joueurs canadiens qui jouent en NBA dépasse celui des Français. Nous, on a quelques talents rares qui sont exceptionnels, qui sont extraterrestres à l'image de Victor. Mais quand tu vois le pool de joueurs on va étiqueter très bon joueur en NBA. Et t'as une flopée exceptionnelle. Enfin, je vais pas refaire la liste qu'a dit Steve, mais ils ont un vivier beaucoup plus impressionnant que le nôtre.
Non, mais sur le vivier, on est d'accord. Mais là où j'ai essayé de
dans ce qu'ils ont marqué,
c'est quand on parle de marquer la NBA. Moi, les joueurs, je m'en fous. En fait, les joueurs dont vous me parlez, je m'en fous parce que c'est Walker qui va marquer l'histoire de la NBA.
Leur superstar à eux.
Et alors là, voilà.
Regardons
qui a marqué la NBA.
Pour l'instant, c'est Tipeee. Si je considère que c'est Tipeee, bah, je suis désolé.
Shea,
non, mais justement,
Nash, ça voilà. Suffit aussi
pour moi,
deux fois
deux matchs,
quand même.
Il y a Shea, Wemby et Nash, Tipeee. Et donc, pour moi, je pense qu'on peut dire qu'il y a match nul. Non, il y a match nul parce que l'avenir est à ces deux-là et je pense que Wemby a un potentiel pour être peut-être encore plus impactant.
Mais là, tu parles de potentiel, tu parles de marquer la NBA à l'instant T. Donc, c'est différent.
Ouais, mais avec Wemby, c'est qu'on est encore dans la projection de champion NBA et de MVP.
Là-dessus, c'est un peu triché.
Shea, il l'a déjà fait.
Tout à fait. Là, je vous accorde ce point-là sans problème. C'est un peu triché sur Wemby.
Ça compte pour des points déjà ?
Non. Par contre, Wemby, quand même, il leur fait tourner la tête quand même. Hein. Faut quand même voir.
Il est en passe de marquer la NBA plus que n'importe qui d'autre au Canada.
Aujourd'hui, tu peux dire qu'en termes d'impact médiatique, Wemby est peut-être même au-dessus de Shea.
Après, Shea est peut-être le mec qui va empêcher Wemby justement d'avoir l'impact.
Exactement. Tu es tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est match nul. Et parce que Nash était peut-être un plus grand joueur. Oui. Nash est peut-être individuellement un mec qui a marqué les esprits, qui a fait des choses incroyables, mais collectivement,
il a fait moins bien.
Il a fait beaucoup, beaucoup moins bien. En fait, parce que Phoenix n'a jamais été vraiment en position d'être champion. Les Spurs les ont toujours presque humiliés. Alors, même s'il y a eu des matchs très serrés, des séries serrées, mais je pense pas que Tipeee a marqué grâce à sa franchise et Nash grâce à son talent, peut-être. Mais pour moi, c'est match nul. Pour moi, le Canada.
Match nul sur les deux.
Match nul dans le débat. Parce que le Canada, c'est presque 51e État américain. C'est normal qu'ils inondent la NBA. Oui. Alors que la France, c'est pas du tout normal.
Oui,
et que t'es Tipeee et Wemby à ce niveau-là, t'as aucun autre pays hors Amérique.
Oui, si on a égalité sur les deux-là, il faut prendre le reste. T'es obligé de prendre le reste.
Si tu veux, mais...
Et donc, si tu prends le reste, tu le rends
compte qu'il n'y a même pas. Pour moi, l'héritage, c'est ni Jamal Murray, ni Boris Diaw, ni Nico Batum. Mais Dieu sait que j'aime ces mecs-là. Il n'y a pas de souci. Hein. Quand on parle de marquer l'histoire de la NBA, je pense que.
Jamal Murray, par exemple.
Boris n'a pas de complexe à faire face à Jamal Murray. Hein. Je parle pas en tant que joueur de basket. On n'est pas au niveau des superstars de la NBA. On n'est pas au niveau des mecs qui marquent la NBA, c'est ce que je veux dire.
Jamal Murray, c'est pas mal quand même. Franchement.
Jamal Murray, ce sera toujours le numéro 2 de Jokic, quel que soit le talent du mec.
C'est pas, oui, mais peut-être c'est parce que son numéro 1 et toutes les étoiles.
Il peut être numéro 1 ailleurs, facile.
Oui, il peut, mais il l'est pas.
Parce que.
Mais Boris, c'est le numéro 1 où ?
On parle.
Et non, numéro 2.
Non, mais c'est pour ça que je te dis ni l'un ni l'autre, en fait, n'intervient dans ce débat, c'est ça que je veux dire.
D'accord, et en plus, c'est marrant, parce que tu dis il y a beaucoup de similitudes et il y a égalité. La particularité du Canada et de la France, c'est que c'est la seule nation hors américaine à avoir fait en back-to-back un numéro 1 draft.
Ça, c'est
Canada,
vrai.
C'est Bennett Wiggins, et nous, c'est Wemby Zachary Zaché. Et je pense que sur le cumul des deux,
on est meilleur.
Qu'on a un peu devant.
Oui,
parce qu'il y en a un qui a disparu de la circulation, un autre qui a fait une très belle carrière, qui a été rookie de l'année, Andrew Wiggins.
Je pense que Wemby. Il est où lui ?
Anthony Bennett ?
C'est ça, Anthony Bennett.
Anthony Bennett, ouais. Anthony Bennett, je sais pas, il est chanteur, non ?
Ouais, peut-être.
Fils de Tony.
Ok. Donc, je vous ai convaincu ou pas ?
Pas du tout.
Non, pas du tout,
mais
carrément.
Pas du tout.
Ah ouais, ok.
Mais c'est n'importe quoi. En plus, tu fais des projections. Déjà, tu triches, donc ça ne me plaît pas du tout.
On espère en tout cas que la France sera meilleure que le Canada dans les sélections.
Alors, justement, on va écouter Nicolas Batum à ce niveau parce que ça va être aussi hors NBA, vraiment un match à suivre. C'est le match à venir entre la France et le Canada.
Moi, je joue avec un jeune joueur qui s'appelle Ben Mathurin, canadien. Ils sont chauds.
Ils sont chauds ?
Oh oui. La façon dont on les a battus, et c'est dans leur tête. Et moi, quand je suis parti jouer à Toronto il y a 2 mois, j'ai vu des gens de la Fédération canadienne qui m'en parlent. C'est
ah
pas
oui.
passé. Hein.
Ils ont les boules.
Ah, c'est pas passé.
Ils ont les boules parce que vous, en plus, vous avez fait un match de boucher charcutier contre eux en plus.
Hein. Exactement. J'ai vu Rowan Barrett.
Ouais.
On connaît bien France.
Le père de RJ Barrett.
Ouais. On n'en parle pas assez, je pense, de cette équipe-là. Quand je parlais avec Ben, il me dit, oui, il sera du coup, t'es pas à Paris.
Oui, il était pas à Paris.
C'était dans...
ouais, quand on en parle, ils ont ce que ça en tête. Hein.
C'était dans Stephen Brunch, avec Stephen Brun, dont vous avez reconnu la voix. Donc là, c'est
cadeau, les Canadiens.
Deux choses. Nouvelle rivalité extrême et surtout énorme danger sportif pour les Bleus, non ?
Énorme danger sportif.
Il faudra déjà qu'on aille à Los Angeles,
énorme danger pour les Américains aussi, le Canadien, parce qu'ils avaient cette espèce de trou béant dans la raquette. Si Zach Hillé est en bonne santé, je pense que ça fait le pivot titulaire de cette équipe canadienne, parce qu'avant c'était Dwight Powell et tu vois des mecs importants, mais pas qu'en gros pas le talent.
Non, tu vas comparer.
Donc tu rajoutes Bénédicte Mathurin, ils ont du monde. Et la vraie interrogation, c'est est-ce que Jamal Murray va un jour rentrer dans cette équipe un peu de canadienne, lui qui était toujours un peu en retrait. On l'a vu à Paris 2024, il était hors de forme, il a été honteux. Et avant, il n'était pas là aux Philippines quand le Canada a fait une médaille de bronze.
Nico,
il est un petit peu on the side.
Nico, dis pas justement que il le sent.
Ouais. Parce qu'ils ont déjà beaucoup de monde sur les lignes extérieures. Mais c'est une équipe qui est potentiellement...
Le potentiel, il est incroyable.
Sinon, il y a le nouveau talent comme soir, pour le futur.
Ah. À savoir.
Jérémy Goyer.
Jérémy Goyer, lui, il va faire plier la...
2m28. 15 ans et demi.
2m28.
15 ans et demi. Canadien.
Il joue au Canada, peut-être qu'on l'a vu du côté de Nanterre, peut-être qu'il sera avec les espoirs de Nanterre. 2m28.
Ah ouais.
Ça changera tout.
Ouais, ça devient trop là. Non,
ça devient beaucoup là. Ouais.
Ils ont leur Wemby à eux peut-être.
Mais c'est-à-dire que Nanterre, ils ont eu Maxime Reynaud, Victor Wembanyama et ils vont faire.
Si on considère que les joueurs qui sont actuellement dans les rosters des deux équipes, ils sont au-dessus de nous.
Oui.
Malgré Wemby.
Sans discussion.
Sur les postes extérieurs, oui.
Après, le problème, on est bon théoriquement ou ils sont moins bons.
Voilà.
Donc à voir, mais théoriquement, vu l'extérieur qu'ils ont, ils devraient
gagner les Américains, tu dis, toi, Steve.
Je pense que les Américains ne seront pas sereins, en tout cas.
Mm-hmm. En tout cas, ils nous détestent.
Non, ils ne nous détestent pas, il y a une rivalité.
Une rivalité parce qu'ils nous ont humiliés aux Philippines. C'est la première compétition. Ils nous ont humiliés.
On en prend 30,
on s'est fait détruire et on les tape.
En vrai, on a fantasmé sur un titre potentiel à Los Angeles et on n'est même pas sûr d'y aller.
Oui, c'est vrai.
On n'est même pas sûr d'être sur le podium.
Aujourd'hui, c'est illusoire de penser qu'on serait champion olympique.
C'est ça aussi. C'est
fantastique. Illusoire. Oui, complètement. Dans deux ans, Pierrot, on n'a pas joué une seule fois avec l'équipe articulée autour de Wembanyama.
Oui, c'est pour ça que aujourd'hui.
Si on ne peut pas rêver.
On ne sait pas à quoi ressemble notre équipe déjà.
On a le droit de rêver. Alors, rêvons avec le quiz, tiens.
Aujourd'hui, il n'y a pas de Tariq Abdulwahad. On s'est fait deux éléments majeurs en moins. Et c'est vrai que c'est. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Allô? Oui. Attends chérie, je suis en train de répondre à une interview, je te laisse.
Et si c'était ça le principal danger pour les Bleus? Un trop plein de sollicitations avant l'Euro?
Je suis vraiment désolé. Hein.
Il est vraiment horrible ce sujet, quoi.
Non mais c'est complètement nul, en plus c'était ma femme.
Comme si ma femme
me faisait pas une interview.
Et toi qui réponds en direct, quoi. Non mais là, y a rien qui va dans cette
séquence. Non mais j'étais pas en direct, les mecs étaient en train de m'enregistrer, ils l'ont gardé, c'est tout.
Et si c'était ça le danger, que les meufs appellent leur mec, ouais.
Ouais, c'est complètement fou.
Bon, c'est pas grave, c'est un bon jingle. Non,
Valérie, t'as jamais appelé pendant une émission? T'as jamais décroché?
moi, mes proches, ils savent même pas à quelle heure je suis à l'antenne.
Ah,
du
connerie,
je te jure.
Ça fait 20 ans que tu fais ça.
Non, moi aussi.
Mon père, par exemple, il est complètement largué, c'est pas du tout.
Il peut
m'appeler, bien sûr.
Mais ils écoutent des fois quand même?
Très rarement. Très rarement. Après, il y a quand même un public particulier. Il faut aimer le sport, il faut être un peu gogo hein, pour écouter cette émission, non? Faut de l'ambiance, quoi.
Bah, si t'as ton fils qui fait une émission, je sais pas, t'écoutes pour voir.
Mon fils peut écouter de temps en temps, ouais. Il adore le basket d'ailleurs. Ah. Bon, bref, passons au quiz.
Il est bon.
Ouf, c'est pas le meilleur de ton équipe. Alors, donc, passons au quiz. C'est un quiz. Alors, d'abord, le blind test va faire la part belle au duo franco-canadien.
Oh mon dieu.
Oh, ils sont déçus. Bah, premier extrait.
C'est Goldman.
C'est Fred le premier. C'est facile, hein.
Oui.
Allez, le deuxième un peu plus difficile.
Garou, Notre-Dame de Paris.
Ouais, c'est comment il s'appelle le mec là qui tire sur Mabouel.
Ouais, c'est ça, exactement. Qui est aussi mauvais que
Mabouel. Qui est Garou.
Oui, c'est ça. Qui est pire.
Mais je sais pas comment il s'appelle.
Fury. Alors, est-ce qu'on le donne à Fred? Alex, attention. Hein. Alex, il est pas très fair play. Hein.
Si j'ai dit oui,
peut-être oui, mais ça te fait chier, quoi.
Non.
Alors tu lui donnes ou pas?
Bien sûr, je lui
allez
donne.
On lui donne 2 pour Fred. Troisième extrait improuvable.
Des vrais, nique tous ceux qu'on déteste, marche avec l'équipe, un collectif de gars qui font des gestes.
Bah, si tu me le trouves, je te donne 5 points. Parce que Steve, il pense te trouver. C'était juste pour
le roi Enoch.
Comment ?
Le roi Enoch ?
Non. Alors ça s'appelle Casse-croûte et l'entourage.
Ça sort d'où ça ?
C'est mon père qui m'a dit, bien, on va leur mettre du rap cadet.
Il n'y a aucun des deux que je connais, ni l'entourage, ni Casse-croûte. Alors Casse-croûte, si, je connais, mais à la boulangerie, mais.
Donc c'est bon. Ça fait 2 points pour Fred. Alors
Robert Charlebois.
Pour la culture générale.
Robert Charlebois, le pif qu'il avait.
J'ai cherché un duo de Robert Charlebois avec un.
Moi j'avais dans ma tête Cœur de Pirate et. Robert Charlebois.
Bah, si tu sais plus comment.
Julien Doré.
Ah ouais. Ah ouais. Cœur de pirate, elle est canadienne.
Bah, oui. Bah oui, sinon je dirais.
Mec, Robert Charlebois. Tu te rappelles, Robert Charlebois, tu te rappelles, j'ai une séquence de l'émission avec Thierry Ardisson où il y avait Laurent Baffy, il y avait Robert Charlebois qui était invité. Et Laurent Baffy dit à un moment à Robert Charlebois, c'est bon, là on est plus au cirque, tu peux enlever ton nez de clown. ton nez de clown.
Quel enfoiré.
Alors pour la culture générale, on va faire un petit tour de table, chacun votre tour. Une question, hein, une seule, ça suffira. Justin Bieber, Justin Trudeau, les deux ou aucun des deux. Ok. Justin Bieber, Justin Trudeau, les deux ou aucun des deux. Steve, j'ai moins de 35 ans.
J'ai moins de 35 ans. Justin Bieber, c'est sûr qu'il a moins de 35 ans. Justin Trudeau, il est très jeune, mais est-ce qu'il n'a pas franchi, je dirais, 36, donc je vais dire juste Justin Bieber.
Alors, juste Justin Bieber, qui n'a que 32 ans.
Ouais.
Mais je pensais que ça y est, c'était
il est là.
Moi, je pensais qu'il avait plus aussi.
Ah, t'aurais dit plus.
Moi, j'aurais dit zéro, aucun des deux.
Il commence à 15 ans,
Justin Bieber. Mais 32 ans. C'est ça qui te...
C'est fou. 54 ans pour Justin Trudeau. Alex.
54, quand même.
Allez. Alors, j'ai été classé 3e personnalité la plus puissante du monde par Forbes en 2011.
c'est quand il est au top du top, notre ami Justin Bieber.
C'était quoi ce move?
C'était une petite danse.
Est-ce que Justin Trudeau est déjà Premier ministre canadien? Allez, Justin Bieber.
C'est Justin Bieber, absolument.
Ah ouais?
C'est dingue, hein.
Mais plus influent. Trudeau, c'était plus tard.
Ouais, il est arrivé plus tard.
Trudeau, c'est 2020,
ministre. Ouais.
Et Fred, la marijuana a indiscutablement marqué ma vie.
C'est vrai.
C'est vrai, non, c'est pas la réponse.
Trudeau.
Les deux, non ?
Les deux. Eh oui, les deux. Trudeau a légalisé la marijuana au Canada et Justin Bieber avait une salle dédiée à la consommation de marijuana dans ses années noires, un peu, quand il est parti faire 2-3 séjours en zonzon.
Okay.
Alors, on passe au basket. Jokic, donc, termine en tête du classement des passeurs et des rebondeurs par match cette saison. C'est une première. Mais avant lui, un autre joueur avait terminé meilleur passeur et meilleur rebondeur au total.
Oscar Robertson ?
Non.
LeBron.
De qui s'agit-il?
Meilleur passeur et meilleur rebondeur.
Ouais, au total. Hein.
Meilleur passeur,
pas par match.
Russell Westbrook.
Non.
Lucas.
C'est
vieux.
Vieux.
Ouais.
Lou Alcindor.
Non. C'est
Will Chamberlain.
Will Chamberlain. En 1968. Qui a été le premier joueur non américain élu MVP?
Dirk Nowitzki.
Non.
Hein? Hakeem Olajuwon.
Non. Alors, Hakeem Olajuwon, oui et non, puisqu'il a la nationalité
Duncan
américaine. Non.
Non américain. Mec, je me sors d'une question.
Non, c'est facile.
Joujou Embiid.
Hyper facile. Non.
Non américain.
Non Steve américain, Nash. Steve Nash.
Mais oui.
Putain, je suis con.
Il est Bempty, normalement, oui. Tu dis il est Bempty Mike.
Alors, par contre, Steve Nash, il est américain. Hein. Il n'est pas états-unien, il est américain. Ah bah je suis désolé mais
tu crois vraiment que réclamation va trouver
alors oui si tu un temps soit peu honnête il y a des États-Unis et des Américains Steve Nash est américain étant
donc toi tu dis États-Unis à chaque fois que tu parles des États-Unis tu dis jamais Américain
évidemment
quel menteur
ça fait 2 points pour tout le monde alors vu qu'on est sur une saison rookie assez exceptionnelle on va deviner un des meilleurs rookies de l'histoire ok. Alors, on démarre avec le rookie de l'année 1990. All-Star dès sa première saison. Demi-finale de la Conférence Ouest dès sa première saison. David Robinson, il est bon.
Bravo. Ouais, il est bon, j'avoue.
C'est l'année ? C'est l'année ou c'est les autres indices ?
Il était dans mon pool de joueurs et...
Après, c'est réduit avec les indices.
Ensuite, arrivé comme un ovni en NBA, a d'abord donné impression... fait impression d'abord par ses performances individuelles.
On comprend rien.
Recommence.
Je recommence. Arrivé comme un ovni en NBA, a d'abord impressionné par ses performances individuelles avant de faire gagner son équipe qui termine pour sa première saison avec un bilan négatif.
LeBron.
Malgré des moyennes de 28 points, 6 rebonds et 6 passes dans sa saison rookie.
Jojo.
Bravo.
Oh. Ah ouais.
All-Star, mais aussi 6e au vote MVP, remporté par Larry Bird. Michael Jordan, bravo. Fred. Et enfin, une première saison qui donne le ton de sa carrière avec des statistiques.
Duncan.
Rookie de 30,5 points de moyenne, 10 rebonds
et 9,7
passes.
Oscar Robertson.
Avec les Royals de Cincinnati, Oscar Robertson. Ah, t'es déçu là, Alex. Tu
aurais dû attendre les passes.
C'est dingue, non ? 30,5, 10 et 10 quasiment. Sa saison rookie.
Bravo, au-dessus de tout le monde.
Donc 3 points chacun. Alors très vite fait, on va voir si vous avez bien la saison en tête. Chacun votre tour, vous me donnez un des titulaires du All-Star Game 2026. On démarre avec Steve.
On regarde.
Victor Wembanyama.
Ouais, c'est bon. Alex. Bon, quand même.
C'est moi, j'ai un trou de ouf aussi.
Ah bah oui.
Moi aussi, j'ai trois équipes différentes.
C'est le seul truc que je regarde pas parce que je déteste. Non.
Non. Ok, alors.
Kate Cunningham.
Kate Cunningham, ouais, il y est, c'est bon. Fred. Il y en a encore quand même deux ou trois.
Déteste.
Vraiment évident.
Jokic.
Jokic, c'est bon.
Lucas. Dans les trois équipes, c'est ça. Hein
ouais. Ouais. Bah non, c'est dans les.
Oui, mais c'est
pas différent. Dans
les deux. C'est les vrais. Ouais.
Lucas. T'as dit Lucas, c'est bon. Alex. Comme quoi, ce All-Star Game, c'est vraiment.
Moi,
mal,
je l'ai pas regardé du tout. J'avoue.
Tu l'as pas? T'as pas?
Kevin Durant.
Non. Fred. Là, vous avez dit Cunningham, Doncic, Jokic et Victor.
Chez.
Bah oui, quand même. Steve.
Je crois qu'il n'a pas joué parce qu'il était blessé, mais je pense qu'il était dans le vote de starter. Yanis, en tête de
compo. Yanis, il était, bravo.
Ouais, mais en fait, ouais.
Alex.
Bah non, de toute façon, j'ai perdu.
Bon, comme tu veux, je te laisse ta chance.
Bah, Jalen Brown.
C'est bon. Fred. Il en reste deux à l'est. Et un à l'ouest. Ah, après, on arrêtera parce qu'il y en a 10. Donc, c'est pas fair. Sinon.
Deux à l'est, tu veux dire.
Ouais, deux à l'est, un à l'ouest.
Brunson.
Ouais, c'est bon. Voilà. Et les deux autres, c'était pas les plus évidents. Il y avait Tyrese Maxey et Steph Curry.
J'allais dire Steph Curry.
Ouais. Donc, on en est à 6 points pour Fred et Steve et 5 points pour Alex. Et donc, nous allons enchaîner avec un Shai Gilgeous, pardon, Alexander ou Trent Alexander-Arnold, ancien joueur de Liverpool.
J'ai jamais entendu parler de ma vie.
Qui joue au Real Madrid. Alors, Steve.
Et ça m'en touche une sans faire bouger l'autre.
J'ai un prénom hébraïque. Ouais.
Shai Gilgeous Alexander, Trent Alexander. Shai me semble plus, je veux dire, Shai Gilgeous Alexander.
La bonne réponse est aucun des deux, car Shai.
C'est une merde de faire ça.
Est un prénom. Shai est un prénom d'origine hébraïque, mais
c'est dégueulasse.
Quoi, Shai,
c'est
son vrai prénom c'est Shai Vont, et ça n'a rien à voir.
C'est dégueulasse.
C'est affreux ça.
Non, franchement, Alex, j'avoue que c'est un peu abusé.
J'ai appelé mon fils.
Normalement, c'est Fred qui a envie de sauver, mais là, c'est moi.
Tellement vicieux.
J'ai appelé mon fils Arès en référence au dieu de la guerre.
Shai Gilgeous Alexander.
Alors, aucun des deux.
Bah, tu continues en plus.
Car Shai a appelé son fils Arès, mais juste parce qu'il aimait bien le prénom et qu'il connaissait même pas le dieu de la guerre.
Il connaissait pas le dieu de la guerre.
Oui, oui, bon, je pense que là,
c'est
on est abusé, chez.
Mais qu'est-ce qu'on sait peut-être qu'il a dit ça alors,
non, parce que je l'ai vu dans un article. J'ai
oui,
pas
mais peut-être
ça,
qu'il le savait et qu'il a fait
non,
son
non, 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 non.
Je vais quitter le jeu.
Il a dit on aimait bien le prénom avec ma femme. Voilà, c'est tout.
T'avais déjà entendu Arès à part le dieu de la guerre ?
Et, ben, et c'est comme si, je sais pas, moi, t'appelles ton fils Coluche, mais tu connais pas Coluche.
Ouais.
Voilà, t'aimes bien le nom, et c'est comme ça. Coluche Weiss.
C'est nul à chier, putain. Hey, t'es pas en forme aujourd'hui. Hein.
Ma mère est américaine, Fred.
Aucun des deux. Alors, sa mère est américaine, mais
non,
il savait pas.
Non. C'est très simple. C'est très simple. C'est Shai, parce que Shai est des États-Unis. Et n'est pas des États-Unis, mais d'Amérique, donc elle est américaine. Donc, Shai Gilgeous Alexander.
Alors, c'est Trent, la mère de Trent
les deux,
est américaine.
Bah les deux.
Et la mère de Shai est d'Antigua et Barbade, donc ça marche pas du tout.
Ça marche
façon,
pas.
ensuite, vous êtes pas très bon hein, sur ce quiz.
Ouais. Il est un peu nul.
Steve, j'ai été troisième de la Coupe du Monde.
J'étais troisième de la Coupe du Monde. Alors, Shai, c'est sûr, aux Philippines, il est troisième. Donc, j'en ai un. Trent Alexander Arnold, international. Anglais. Trent Alexander-Arnold, troisième de la Coupe du Monde. Les Anglais, est-ce qu'ils ont fait 3e de la Coupe du Monde? Je crois pas. Finaliste de l'Euro. Je vais dire Shai Gilgeous-Alexander.
C'est la bonne réponse. Alex, j'ai été sacré en 2025.
Alors, Shai Gilgeous-Alexander, oui. Et Trent... Trent... bah si.
Son équipe Liverpool.
Son équipe Liverpool.
Ah, mais oui, je suis con. Il était encore à Liverpool. Je croyais qu'il était déjà à Madrid. Donc oui, les deux.
Les deux. J'ai eu peur pour toi.
Non, mais je le voyais au Real déjà la saison dernière.
Fred, je te conseille de répondre au hasard. Je suis
ouais,
dans
le... juste que Billy Arnold, je sais pas du tout qui c'est ce mec. J'en ai rien à foutre. Je
Trent, ah, c'est un des meilleurs latéraux du foot actuel. Hein.
C'est super.
Je suis dans le top 5 des meilleurs passeurs de l'histoire de mon club.
Billy? Enfin, Trent?
Non, c'est Shai. Okay. Qui est déjà 3e. Et Trent, 7e de Liverpool, ce qui est pas mal quand même. Donc Fred 6 points, Alex 6 points.
En étant parti.
Et Steve 7 points. Ah, on revient au play-off. LeBron James et Kevin Durant vont s'affronter au premier tour. La dernière fois qu'ils se sont affrontés en play-off, c'était quand?
Il faut donner une date là?
Il faut donner la.
2015 faut non, donner... 2016.
Non.
2018?
Oui, c'est finale 2018, Cleveland, Golden State. En play-off, ça remonte, hein. Ouais. Lors de ces finales 2018, citez-moi dans une des deux équipes un joueur non américain.
Anderson, non. C'est quoi?
Kyrie Irving.
Cleveland, Golden State.
Kyrie Irving.
Non.
Oui, il est pas américain.
Mais
australien.
Ah. Mais attends.
T'as baisé. Hein.
Est-ce qu'il était encore en 2018 ou non?
Pas en 2018.
Peut-être qu'il était parti déjà. C'est la... Je sais
pas. Je pense pas. Hein, ouais.
T'as vraiment était... vérifié?
C'est 2016 ouais, ouais. Kyrie où il gagne.
Ouais, c'est pour ça. Après, je qu'il est parti. Ouais.
J'ai vraiment vérifié. Je peux même vous donner les nationalités et ça va pas vous aider.
Mozgov?
Non. Il y a un Géorgien, un Espagnol, un Turc, un Croate et un Canadien.
Bielica? Serbe?
Non.
Attends. Un Espagnol?
Un Espagnol, un Géorgien, un Turc, un Croate et un Canadien.
Un Espagnol?
Sidi Osman.
Sidi Osman. Excellent.
Mais c'est qui l'Espagnol?
José Calderón.
José Calderón. Il joue encore Calderón.
Cleveland.
Et Géorgien.
Géorgien Zaza Pachulia. Golden State. Zaza, oui. On avait Tristan Thompson et Ante Zizic également. Encore plus nul que la question Mesmer. Voici la question Denis Charvet.
Giannis
Antetokounmpos.
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 Alors on va voir. On nous a reproché nos prononciations de SGA dans des podcasts précédents. Donc on va voir si vous l'avez correctement. À l'américaine.
Parce que tu l'as, toi, correctement.
Moi, je ne l'ai pas, j'arrive jamais.
À l'américaine ou à l'états-unienne?
On a la preuve?
À l'américaine. Ouais, on a la preuve. Okay. On a la preuve. Alors, je vous demande de faire silence. Chacun votre tour, vous allez me prononcer ça de la meilleure manière possible. Steve, tu commences.
SGA.
Non.
Il a gagné.
Le nom complet.
Shai Gilgeous-Alexander.
Ok. Alex.
Shai Gilgeous-Alexander.
Ok, vérification.
Shai Gilgeous-Alexander.
Et c'est Alex. Bravo Alex. Et tout le monde est
d'accord. Vas-y, fais-le en alsacien maintenant, tu vas voir, je vais te le faire aussi. Hein.
7 points pour tout le monde. Question Mesmer.
Le nouveau spectacle de Mesmer avec RMC.
Je vais vous faire la question où vous devez être d'accord avec moi pour avoir le point.
Oh putain,
il recommence.
Osez l'expérience où maîtrise de soi et fascination se rencontrent.
Tu peux me laisser parler ?
T'as trouvé ça où, toi ?
Mais qu'est-ce que tu me fais chier, toi ?
Voici la question Mesmer.
Avec RMC.
Avant de vous poser la question Mesmer, je vous propose, vu que vous êtes tous à égalité, qu'elle soit déterminante. Parce que ça fait, on est très long aujourd'hui et la question.
Au bout de 3 heures de podcast, c'est long, oui.
La question multipoint, elle est chiante en plus.
Il est où, hein, de Valadon?
Alors, lui, il... voici la question Mesmer qui va faire la différence. Croyez-vous encore en Ja Morant? Steve.
Non, pour moi, Ja Morant en NBA, c'est bientôt terminé. Trop de casseroles. Il n'y a plus aucune équipe qui va vouloir le récupérer parce que, en plus de lui, qui est un cancre, il y a le daron à supporter. Je pense que peut-être qu'une franchise va tenter le coup. Au final, ça va être un fiasco et qu'on va le retrouver du côté du Partizan Belgrade dans 3 ans.
Hey, tu sais quoi, si dans 3 ans il est au Partizan Belgrade, je te donne 5 points dans un quiz. Alex.
Oui, parce que je pense qu'on a vu quand même l'étendue de son talent sur les périodes où il pouvait être sérieux, même si elles n'ont pas été très nombreuses. Mais je pense qu'il va, à un moment donné, comprendre que s'il veut avoir quand même une vraie vie NBA, il va falloir qu'il change. Et je pense que ça passera par un trade. Donc j'espère que Memphis le fera et qu'il sera opérationnel dans une autre franchise. Et je pense qu'il a tout le talent pour se remettre là-dessus. C'était déjà un peu le cas en université, où il avait déjà eu quelques petits problèmes avant de se ressaisir aussi. Donc je vais y croire une deuxième fois, et on n'est clairement pas sur un syndrome Tyreek Evans, donc oui, j'y crois.
Fred ?
J'y crois pour une simple et bonne raison, c'est qu'il va être échangé à Miami, où Miami, il y a Spoelstra et Pat Riley qui sont des spécialistes
des cassos
et de remettre les gens dans le droit chemin. Il va être pris dans le bureau de Pat Riley. Pat Riley, il va lui expliquer la vie. Il lui dit, toi, tu penses que t'es un gangster. Je vais te montrer ce que c'est un vrai gangster. Il va flipper sa race et il va redevenir le joueur qui devrait être.
Il est dans Hit 2.
Alors, quelqu'un a gagné grâce à la question Mesmer. C'est pas Steve, parce que moi, je crois encore en Ja Morant. Trop de talent pour abandonner aussitôt. Et je pense en effet
qui va abandonner, hein.
Que l'histoire de la NBA est jalonnée de parcours comme ça, de mecs qui étaient perdus, qu'on a retrouvés. D'autres qu'on a perdus à tout jamais aussi, hein, on est d'accord. Hein.
Donc il y a deux vainqueurs, non ?
Ouais, mais alors tu vois, là, Fred il m'a fait rêver avec son histoire de Miami. Et donc Fred, je t'annonce que...
J'aime beaucoup cette façon de penser.
Donc en fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est...
Quand il sera pas
la
tradé,
bonne réponse c'était oui.
C'est au feeling. Quand il sera tradé, mais pas à Miami, tu lui retireras 5
oui,
points.
Et on lui enlèvera cette victoire.
Sachant que s'il est à Belgrade en 3 ans, j'ai quand même gagné le coup.
Allez, à la semaine prochaine. RMC Basket Time.